Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et merci beaucoup de le faire. C'est la chronique économie en compagnie de Michel Potvin, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Ça va, Michel?
Ça va bien, Hélène, et vous?
Oui, ça va, merci. Alors, on a annoncé ce matin une transaction importante dans le secteur bancaire.
Mais oui, la banque Laurentienne, qui est une des grosses banques québécoises, a été vendue à une banque qu'on ne connaît pas beaucoup, la banque Fairstone.
Non, en effet.
Qui est installée plus longtemps au Canada, mais se spécialise surtout dans les prêts commerciaux. Alors, c'est peut-être pour ça que, comme consommateur, on la connaît moins. C'est une transaction qui est évaluée à 1,9 milliard de dollars, ce qui correspond à une prime de 20 % sur le prix de l'action de la Banque Laurentienne hier. Mais c'est pas tout. La Banque Laurentienne est à œuvre dans plusieurs domaines. Tout son portefeuille de services bancaires aux particuliers, aux PME, a été acheté ou va être acheté par la Banque nationale. Donc, la Banque nationale acquiert tous les dépôts, les prêts des particuliers et des PME, mais pas les employés ni les succursales. On nous dit qu'il y a environ 2800 personnes qui travaillent à la Banque Laurentienne. Ça ne veut pas dire que tous ces employés-là vont perdre leur emploi parce que, comme je vais en parler un peu plus loin, là, mais il y a plusieurs activités de la Banque Laurentienne qui vont subsister. Donc, les employés qui sont dans ces secteurs-là vont conserver leur emploi. L'autre chose, la Banque nationale va acquérir ce qu'on appelle des prêts syndiqués. Donc, les prêts syndiqués, c'est lorsqu'on a un syndicat de prêteurs, donc un consortium de prêteurs qui prête. Puis souvent, ça, ce sont pour des gros projets. On va prêter de l'argent. Puis comme c'est un gros projet, les banques se mettent plusieurs ensemble pour diversifier le risque pour prêter. Donc, c'est ce qu'on appelle un prêt syndiqué. Mm-hmm. Ça va également à la Banque nationale.
Et Michel, qu'est-ce qui va advenir de la Banque Laurentienne?
Bon, la Banque Laurentienne va devenir spécialisée en financement commercial, ce qui rejoint un peu son acheteur Fairstone. Donc, financement commercial, c'est quoi? Il y a des prêts immobiliers commerciaux, le prêt pour inventaire et équipement, puis des activités sur le marché des capitaux. Selon le président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, Éric Provost, qui va conserver son emploi, le rapprochement avec Fairstone va permettre d'accroître faire croître les activités commerciales de la Laurentienne à travers tout le Canada. Puis, chose importante, la Banque Laurentienne va conserver son image de marque, puis le siège social de la banque va rester à Montréal. Donc, la Banque Laurentienne ne disparaîtra pas, si vous voulez. C'est juste qu'elle va avoir un propriétaire différent, qui est la banque Fairstone. Puis, pour Fairstone, déjà, c'est un prêteur important au pays. Donc, acquérir Laurentienne, ça va lui permettre d'accélérer sa croissance en immobilier commercial, puis surtout au Québec où Fairstone était un peu moins présent. Puis Fairstone juge que le Québec, c'est un marché qui est important stratégiquement. Donc, le président, là, Scott Wood de Fairstone, a dit qu'il considérait le Québec comme un marché clé. Ils sont ravis de continuer à établir sa présence grâce à l'expertise qu'il acquiert avec la Banque Laurentienne, qui a quand même une expertise forte au Québec. Peut-être on peut mentionner, c'est pas coulé dans le béton, là. Quoiqu'avec une prime de 20 % sur les actions, les actionnaires devraient voir d'un bon œil cette transaction, mais l'accord de vente doit être approuvé par au moins 2/3 des actionnaires de la Banque Laurentienne. Et notre caisse de dépôt détient 8 % des actions de la Banque Laurentienne, puis elle s'est engagée à soutenir la transaction, mais à certaines conditions. Un, c'est le maintien du siège social de la Banque Laurentienne au Québec, et deux, le déménagement du siège social de Fairstone à Montréal. Ce qui va être peut-être un peu plus compliqué, on verra. Bon, oui. La Caisse pose ces conditions-là, mais elle détient seulement 8 % des actions. C'est un gros actionnaire de la Banque Laurentienne, mais il y en a d'autres. Alors, est-ce que ça va jouer dans la balance? On verra quand ça va être soumis au vote des actionnaires.
Et pour terminer, Michel, l'OCDE publie ses prévisions de croissance.
Oui, l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est une organisation internationale qui est basée à Paris. Donc, elle publie entre autres des études sur la santé de l'économie mondiale, puis aussi elle détaille par pays. Ce qu'elle a remarqué, c'est que l'économie mondiale, malgré le choc des droits de douane américains puis les incertitudes politiques et tarifaires, l'économie mondiale a résisté quand même assez bien en 2025. Puis là, elle se montre plus optimiste qu'elle l'a été dans ses prévisions passées pour des pays importants, des poids lourds, comme elle le dit, les États-Unis, la Chine et la zone euro. Mais en même temps, tout ça, c'est fragile, mais il y a quand même un optimisme. Pourquoi l'économie mondiale a été plus résiliente? On avait peur d'un ralentissement à cause des guerres commerciales, ce qui est arrivé en début d'année, on a anticipé les droits de douane, ça a stimulé beaucoup l'économie parce que les gens se sont dépêchés d'acheter ou de vendre à l'étranger avant l'imposition des droits de douane. Donc, paradoxalement, l'annonce de la guerre commerciale a stimulé pendant un certain moment les échanges commerciaux. Il y a aussi beaucoup d'investissements à l'échelle mondiale, surtout aux États-Unis, mais ailleurs également en Chine, en Europe, des investissements qui sont liés à l'intelligence artificielle. Puis on se pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est le nouveau bonanza? Est-ce que ça va transformer nos économies? Les gens sont divisés là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément d'investissements dans ce domaine-là. Donc ça aussi, ça stimule la croissance de l'économie mondiale. Et puis, un peu comme à l'instar du Canada, il y a beaucoup de banques centrales qui ont commencé à baisser leurs taux en 2025. Nous, on l'a vu, la Banque du Canada a réduit significativement son taux d'intérêt au cours de l'année. Ça s'est fait également dans d'autres pays. Puis enfin, il y a beaucoup de politiques de gouvernements qui ont des politiques budgétaires assez importantes, qui ont peur que les droits de douane affectent leur économie, donc ils dépensent beaucoup, notamment, on l'a vu avec le budget fédéral au Canada. C'est la même chose dans d'autres pays. Donc, tous ces facteurs-là ont fait que l'économie mondiale a pu subsister. En 2024, la croissance mondiale était de 3,3%. On s'attend à ce qu'elle soit 3,2% en 2025, donc assez proche. Puis l'OCDE prévoit une croissance de 2,9% en 2026 et 3,1% en 2027. Donc ça, c'est à l'échelle mondiale. Pour différents pays, on ne passera pas tous les pays. Je pensais parler des États-Unis puis du Canada. Aux États-Unis, les économistes disaient avec les droits de douane, l'économie américaine va piquer du nez, mais on ne semble pas le voir encore. L'OCDE prévoit une croissance de 2% pour 2025. Bon, l'année achève, mais on n'a pas toutes les données encore. Puis 1,7% en 2026, puis 1,9% en 2027. C'est sous la croissance mondiale, mais en même temps, les États-Unis, c'est un gros pays développé. Alors, les gros pays développés croissent moins vite que des pays en développement comme la Chine ou les pays du Sud-Est asiatique, l'Inde, le Brésil, etc., qui, eux, tirent à la hausse la croissance mondiale moyenne. Au niveau du Canada, on est un peu en deçà des États-Unis. On s'attend à 1,3% de croissance en 2026 et 1,7% en 2027. Par contre, on dit qu'au Canada, les taux d'intérêt ont baissé. L'inflation devrait rester proche de 2% selon l'OCDE. Et puis, le gouvernement soutient l'économie. Alors, on espère que avec tout ça, l'investissement des entreprises va reprendre et que la consommation des ménages, qui est aussi un facteur de croissance, va progresser là, à mesure que l'incertitude tarifaire va se dissiper.
Oui. C'est beaucoup ça, l'économie. Hein. On verra à suivre, on espère.
Et c'est ça. Donc, en attendant, on pense à aux emplettes de Noël.
Oui. En tout cas, on y pense et puis on les budgète également?
Exactement. Ouais. Il faut... parce que c'est ça, 2026, qu'est-ce que ça va nous réserver? Là, il y a l'accord de libre-échange avec les États-Unis qui va être renégocié en 2026. Espérons que ça va bien aller, mais on sait que toute négociation avec nos amis d'en bas n'est pas toujours facile.
Absolument. Grand merci, Michel. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.